partie. Donc, c'est les plans traditionnels aussi hein, que vous avez dans tout document structuré. Donc, il y a un axe. Donc, ça, c'est vraiment les grandes orientations qu'on donne au parc naturel régional. Donc, tout à l'heure, on les listera de manière rapide. Ensuite, il y a les orientations. Donc, c'est dire, voilà, par rapport à l'axe qu'on a identifié, il y a des thématiques particulières qui ont été prises en compte. Et les articles, c'est comment on va décliner ces thématiques particulières. Donc, pour vous donner une idée globale au niveau des grands axes qui ont été définis pour l'avant-projet de charte, donc, ils sont classés par priorité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'axe 1, c'est l'axe prioritaire pour le projet de PNR. Donc, on a identifié comme action prioritaire donc tout ce qui est développement économique responsable intégrant la préservation des ressources naturelles. Donc, ça, c'est vraiment l'idée majeure qu'on souhaite mettre en avant au niveau donc, de ce projet de parc. Ensuite, donc, nous expliquerons, on reviendra plus en détail sur les orientations et les articles. L'axe 2, on a ciblé pour préserver et transmettre les patrimoines naturels, culturels et paysagers des Préalpes d'Azur aux générations futures. Donc là, c'est vrai qu'on s'intéresse à tout ce qui est patrimoine naturel, mais également à tout ce qui est culture et paysage. L'axe 3, pour un aménagement renouvelé et durable de l'espace. Donc là, c'est un peu tout ce qui est foncier et déplacement. Axe 4, pour enrichir le capital humain, le biais d'un développement solidaire et d'actes responsables. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est culture, savoir-faire, savoir-être. Et l'axe 5, donc là, c'est plutôt tout ce qui est gouvernance, pour une gestion responsable, exemplaire et ouverte. Donc là, ça vous donne un peu la trame générale des grands axes qu'on va développer pour ce PNR, sachant que les axes doivent faire prendre en compte tout ce qui est transversalité dans les commissions, dans les sous-commissions. On a souvent mentionné que, par exemple, certaines thématiques comme l'agriculture, comme le paysage, comme le tourisme, étaient transversales. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler de l'activité économique, sans parler du paysage, sans parler de savoir-faire. Donc, tous ces éléments-là, on a essayé de les regrouper dans des axes. Alors, déjà, sur les axes principaux qui sont présentés, est-ce que ça vous paraît logique, cohérent, sachant qu'on va rentrer plus en détail?
Oui, c'est un peu ce qu'on a dit, quoi. On voit bien dans l'enchaînement de la démonstration qu'on veut faire. On parle effectivement du développement basé sur l'économie et la préservation. Voilà, je pense qu'à partir de là, c'est bien décliné, quoi. Voilà, donc on est bien sur cette problématique et sur le souci de faire à la fois le développement, la préservation et une transmission intelligente de tout ce qu'on aura mis en place à nos successeurs. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal.
Votre point de diversion qu'on a fait, c'était d'ajouter, de mettre d'abord tout ce qui est activité des mondes. Parce qu'on a senti que c'est aussi ce qui va occuper le plus les gens du mobilier.
Pour entrer plus en détail dans l'axe 1, donc la première orientation, donc la première priorité dans cet axe, c'est contribuer au renouvellement du modèle économique agricole et forestier de moyenne montagne méditerranéenne structurant le territoire. Donc comment on va y arriver? Comment on va faire une proposition? Donc ça va se décliner en articles. Donc le premier article, c'est assurer le maintien et le développement d'une agriculture méditerranéenne et de montagne viable économiquement et globalement durable. Il faut savoir que les mots ont été pesés dans le sens où, par exemple, là, vous avez les deux termes, maintien et développement, qui apparaissent. Et c'est vraiment deux termes qui sont ressortis de la présentation. Si on veut développer certaines activités, il faut d'abord leur permettre de se maintenir dans un premier temps pour ensuite pouvoir les développer. Donc, c'est des mots quand même qui ont été pesés. Article 2, mettre en place une stratégie forestière volontariste. Il faut savoir que sur l'ensemble du territoire, donc du PNR, 70% du territoire est recouvert de la forêt. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu. La forêt représente un patrimoine et il y a un enjeu au niveau de la valorisation, de la préservation de ce patrimoine.
Effectivement, pour dire que dans la présentation, aperçu quand même que vous aviez pris un petit peu d'avance dans certains secteurs, notamment sur le bois. Et là, il commence à réfléchir un peu. Il dit, mais le bois, ça peut être intéressant aussi. C'est une énergie, on en parle un peu renouvelable. Donc, j'avais des réunions chez vous pour la chasse, pour la synergie en particulier. Donc, ça veut dire qu'on s'y intéresse aussi, la forêt, la pomme. Agriculture, bon, on s'y est intéressé aussi. On y a de l'eau aussi pour l'aide qu'on avait faite pour un cultivateur qui voulait s'installer à Valdoro. Donc, vous avez déjà pris un peu d'avance dans certains secteurs. Et on en parlera aussi, je crois, les sanitaires, les transports, les produits, vous y passez, tant mieux pour vous, mais il faut que les autres aussi fassent pas le choix.
Je ne sais pas si l'article 2 doit être décomposé après, comment il va être décliné, mais c'est un gros volet, hein, la stratégie forestière volontariste, dans la mesure où on sait, il y a une volonté du président de la République de développer la biomasse, parce que la biomasse qui va fabriquer l'électricité va être fortement encouragée, qu'il y a un fonds forêt-bois qui est mis en place, et c'est quelque chose qui va être essentiel, parce que l'ONF a quand même bas de l'aile en ce moment. C'est une télévision publique qui est en mauvaise posture financièrement parlant. Donc des préoccupations pour les communes qu'on va voir remonter. Et moi, personnellement, j'ai demandé à Gaston Franco qu'au titre des communes forestières, on se penche sur des passerelles importantes et efficaces avec la forêt privée. Parce que communes forestières, ben, c'est les communes qui gèrent leur propre territoire, mais il y a énormément de forêts privées. Et nous, dans le PNR, je le lui ai dit, alors apparemment il est d'accord, on va certainement recruter quelqu'un qui va nous permettre de travailler dans ce sens-là, pour qu'on prenne en compte, nous, communes forestières, aussi la forêt privée, qu'on soit aussi moteur à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que dans la stratégie forestière volontariste, il y a de quoi en mettre. Hein. Donc, je ne sais pas comment c'est décliné après, mais là, ça me semble être un gros volet.
J'ai oublié deux choses, dans tout à l'heure parlé, qu'on allait embaucher quelqu'un, c'est qu'on va essayer. Les gens qu'on embauche sont des gens qu'on va mettre à votre disposition. C'est-à-dire, ils vous imposeront des besoins de renseignements, ils sont là pour où ils l'ont, ils le connaissent, ou bien ils s'adressent à la région, au département ou ailleurs, pour vous aider. Donc, les techniciens, ils vous imposeront rien. Ils seront à votre écoute. Ça, c'est important. Et ce que j'ai voulu dire aussi, c'est qu'on a encore d'autres réunions, on ne va pas arrêter parce que la charte s'achève cette semaine, on ne va pas arrêter. On a prévu des réunions thématiques. Et justement, une sur la forêt aussi privée, parce qu'elle est très importante, un rôle de venir, il y a d'autres.
Marguerite d'Aragon.
Aragon qui s'intéresse aussi à ça. C'est intéressant parce qu'ils ont un territoire énorme. Et aujourd'hui, alors, là-bas, ils veulent tous dans le. Ils n'ont qu'à entretenir la forêt. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui a 100 hectares de forêt, il l'entretienne alors que ça lui rapporte pas en réalité. C'est pas possible. Il y a une activité. Et tu as raison de parler de l'ONF aussi, il faut arranger un peu, quelquefois, on leur interdit de faire une éducation, en fait, dans un bois. Il y aura des pistes à faire. Les écoles soient pour ou soient d'autres, on aura forcément des pistes à faire. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais si on fait des pistes qu'on laisse mettre n'importe qui, avec un théâtre de couilles, ils vont tout bousiller, et des pistes qui permettront d'exploiter la forêt sont indispensables. Il faut que là aussi, l'ONF nous vous aide. Il y aura une police à faire, on en a parlé à Andorre, on a eu une belle réunion autrefois à Andorre, on pourra parler aussi. Qui va prendre les pistes, les chemins communaux, les chemins ruraux. Il y a là, il faut revisiter un peu la réglementation pour que les maires puissent peut-être promouvoir ce qui les intéresse vraiment et puis éviter, bon, on sait bien, les dégâts des quoi, ou autre, qu'il faut essayer de réguler. Donc ça, c'est des choses importantes. Alors on va avoir des réunions thématiques sur le plus possible, c'est un gros travail pour mûrir encore et pour l'or, le plus possible dans le mois de septembre pour essayer d'écouter encore tout le monde, pour avoir des suggestions, parce que moi, comment développer la forêt privée, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vraiment apporter. Par contre, j'ai envie d'écouter si vous avez raison d'en parler.
Voilà, c'est important. Au Conseil général, on a prévu aussi de rendre possible des aides à la forêt privée, parce qu'on s'aperçoit que c'est très, très essentiel. Quoi, hein. Voilà, et après, développer le principe d'utilisation de la biomasse, vulgariser le principe de la plaquette ou du granulé, enfin, si on est capable de produire du granulé. Et rester aussi, bien entendu, sur la qualité de bois d'œuvre qui n'est pas assez mise en évidence dans notre département.
Sur le chauffage, il y a l'initiative du Conseil général sur les collèges. Nous, on a fait la même chose sur les lycées, bon, c'est pas tout. Moi. Je vais aussi sur ma commune, puis d'autres fois sur leur commune, et là, sur les autres. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut qu'on puisse arriver vers cette énergie de bois. C'est pas normal qu'on dépasse trop de mazout ici, alors qu'on est pour ce bois. Mais c'est une petite révolution, ça.
C'est sûr, et franchement, quand on sait le potentiel économique que ça peut représenter, le principe de la construction bois et le fait de générer des économies sur les énergies qu'on ne va pas gaspiller, qu'on ne va pas dépenser, la construction bois, c'est ce qui est le plus approprié à avoir. D'ailleurs, on fera une expo tournante du CAUE de l'Isère, on viendra sur le bois et sur le principe de l'isolation des constructions.
C'est une richesse, et même tel qu'il est le bois, ce sont des puits de carbone et qui fabriquent pour les satins qui est dans la vie, et ils fabriquent il absorbe le gaz carbonique. Donc c'est vrai que si vous coupez tout, en le coupant, mais en le faisant repousser, s'il est renouvelable, plus de 30 ans, on peut imaginer que la forêt est reconstituée quand c'est géré vraiment. Donc si c'est renouvelable, beaucoup plus que le pétrole, on va attendre des milliers d'années de pétrole pour que ça se renouvelle. Donc c'est vrai qu'on n'y est pas passé. Les gens disent, ouais, de toute façon, on va le brûler, c'est une catastrophe. Non, si vous ne le brûlez pas, il finit par pourrir, il finit par tomber, et il produira aussi du méthane, il produira aussi du gaz carbonique. Au lieu de, dans toute sa vie, il absorbe le gaz carbonique, et quand il va crever, il va le redonner. Rien ne se fait, rien ne se fait. Si en tout temps, vous allez prendre son énergie du bois, c'est pas idiot. Et tout ça, ça nous a complètement échappé pendant des années.
Dernier point dans cette orientation, soutenir le système agro-sylvo-synergétique, garant de l'équilibre des territoires de moyenne montagne et méditerranéenne. Donc là, c'est prendre en compte tout ce qui est agricole, forestier et également tout ce qui concerne la chasse.
Est-ce que pour avoir des agriculteurs qui sont là, agriculture méditerranéenne et de montagne, c'est une définition qui convient ?
C'est la question que je me posais, quoi, je veux dire, parce que agriculture méditerranéenne de montagne, je veux dire, c'est. C'est un grand titre, c'est un grand chapeau, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi? Moi, honnêtement, j'ai de la difficulté à lire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'agriculture méditerranéenne telle qu'elle se pratique aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen, c'est une agriculture à développer en tant que telle? Est-ce qu'elle a cette capacité à se confronter aux problématiques de demain en termes de réchauffement climatique, en termes d'utilisation de l'eau et tout ça? Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme ou si il faut le décliner plus avant, quoi.
Ben, tu liras ce qu'il y a dans l'article et puis tu feras tes commentaires.
Tu le complètes, vous le complétez. Nous, sans arrêt, on s'est aperçu dans tout ce qu'on faisait que ce qui fait la richesse un peu de ces régions-là, c'est que c'est à la fois influence maritime et influence de la montagne. Ça, on le retrouve partout. Mais si tu peux aller plus loin, et là, c'est important, faire l'agriculture, bon, on a pensé au sud, c'est plutôt les oliviers, bon, les communes comme Saint-Césaire.
Même l'Est, hein.
Ouais, même l'Est aussi c'est l'olivier, Carros, tout ça c'est l'olivier. Bon, vous, à partir de 500 mètres, c'est plus l'olivier, donc c'est pour ça qu'on a voulu voir la différence. Mais tu peux l'enrichir.
Oui, parce que après, c'est, je pense, lorsqu'on parle après agriculture de montagne, je veux dire aussi, quoi. Parce que qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'agriculture de montagne qu'il y avait il y a 100 ans ou 2 siècles en arrière, je ne sais pas trop. Et donc, il y a beaucoup de questions à se poser sur ces termes-là, quoi. Qu'est-ce qu'il recouvre comme idée ou comme stratégie pour demain, quoi.
C'est l'objectif, remarque, hein. C'est le développement un peu de manière viable, économiquement et en référence à l'environnement. C'est ça, hein, le projet. Le maintien, oui, c'est vrai, à la limite, on pourrait retirer le maintien. Ce qu'on cherche, c'est la développer.
Non, mais je comprends très bien.
Le maintien, c'est qu'il ne faut pas laisser partir ce qui existe encore.
C'est
ce qui était dans l'esprit.
Non, mais Pierre et puis d'autres diront ce qu'ils ont à dire sur cette.
Voilà,
je pense qu'on n'accepte rien du tout. C'est pas une façon de. C'est pas un diktat.
Je comprends très bien. Moi, c'est les questions que je pose. C'est pour moi, il n'y a pas de diktat là-dedans. C'est comme dans la notion de maintien. Je veux dire, moi, je suis entièrement d'accord sur le maintien, mais il ne faut pas que le maintien soit compris aujourd'hui dans le développement de la politique agricole qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Le maintien, pour maintenir un agriculteur, on supprime les agriculteurs autour de chez lui pour qu'il ait des surfaces un peu plus grandes, etc., etc., quoi. Et donc, c'est toute l'ambiguïté de ces mots-là, quoi, je veux dire, qui ont un passé, qui viennent de quelque part, et qu'il faut savoir manipuler avec précaution.
C'est ça. Non, c'est bien que tu l'as vu comme ça.
Au
niveau de viable, donc, tout ce territoire est parcellé, les petites parcelles, etc. Et pour que ça soit viable, il faut que ces parcelles deviennent plus grandes quand même. Pour faire vivre un agriculteur, il faut des territoires un peu plus grands. Et donc, il y a une politique de regroupement.
Remembrement.
Non.
Ça a été fait déjà le remembrement.
Je pense
que... souviens quand elle a été faite, ça a été une catastrophe pour Péménade parce qu'ils ont refait tous les caniveaux, chacun des cailles pour recentrer rassembler, pour le même propriétaire, rassembler les parcelles. D'accord, ouais. Et ils ne s'étaient pas aperçus, le génie rural qui avait fait ça à cette époque-là, qu'en refaisant avec un but les fossés pendant des années, l'eau qui est de pluie, elle allait entraîner les fines. Et en bas, ils ont dû changer leur station de traitement des eaux. À Pémina, ils ont fait de l'ultra-filtration parce qu'il y avait de l'eau trop là. Mais voilà. Bon, c'est pas la catastrophe, il est clair. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas repoussé dans les petits fossés que tu connais à Calais. Il y a plus. Mais au départ, ça a été la catastrophe. Et c'est intéressant. C'est vrai que s'ils n'ont pas des petites parcelles, ils peuvent essayer de rapprocher leur terrain. Mais ça a déjà été fait, je crois, les rapprochements.
Mais je pense, sur ce thème-là, je pense que. Il faut sortir aussi des schémas établis, quoi, parce que ce qu'on a fait en termes de remembrement, je pense que dans les années passées, c'est quelque chose qu'il faut revisiter aujourd'hui. Et à la limite, moi, je prendrais plutôt exemple sur la forêt, quoi, sur la forêt privée. C'est comment des gens qui sont propriétaires sont en capacité à s'organiser pour créer un outil de travail qui soit viable pour quelqu'un qui viendrait travailler dessus, quoi. Je pense plutôt dans ce sens-là que dans la notion de remembrer. Parce que si on veut faire du remembrement, je veux dire, les 12 ans du PNR seront trop courts pour arriver à un résultat, quoi. Tandis que je pense que c'est plutôt dans les formes organisationnelles de la gestion du foncier qu'il faut se pencher, quoi.
On va travailler avec la coopérative, avec le CRPF, le syndicat des propriétaires forestiers. Voilà, c'est avec eux qu'on va travailler.
Voilà, parce que
l'idéal, par contre, tu as raison, même l'idéal, ça serait qu'il n'y en ait qu'un au lieu des trois interlocuteurs qu'on a en face de nous, quoi. C'est pas très normal que la forêt soit représentée par trois structures. C'est un peu trop.
Et que rien n'a pas aussi encore une région spécifique agriculteur aussi.
On a plusieurs thématiques. Hein.
Plusieurs thématiques.
Puis l'agriculture avec la chambre, la forêt privée.
Ça, c'est ça.
Il y a juste un point moi, sur lequel j'aimerais insister là. C'est qu'il y a quelques temps, là, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a eu une réunion, là, j'appelle ça une rencontre avec le préfet au champ, parce qu'il est sorti de la préfecture, il est allé au champ. Et donc j'ai quand même été assez surpris d'une annonce qu'a fait le préfet en disant qu'en ce moment, ils étaient en train de réfléchir avec le Conseil général, la Chambre d'agriculture et la DDEA, sur une politique de développement de l'agriculture sur le 06 ou une réflexion sur l'agriculture. Et donc moi, j'aurais bien aimé souhaiter que, puisqu'on travaillait sur le parc naturel et sur l'agriculture du parc, qu'il y ait quand même des lieux d'échange et des lieux de rencontre, quoi. Parce que savoir ce qui se dit dans ces instances-là aurait peut-être été intéressant pour apporter nous du grain à moudre et en même temps pour voir un peu quelle idée ils avaient de l'agriculture de demain.
C'est la gouvernance qui va s'occuper de quoi, parce que là c'est vachement cloisonné et c'est pas comme ça qu'on avance.
Voilà, moi c'est une forme d'inquiétude, quoi, que quelque part on définisse une stratégie et on en définit une deuxième ailleurs et on se pose des questions, la relation entre les deux.
Je pense que le relais c'est la chambre, puisque tu dis que la chambre va travailler avec eux. Non, mais par rapport à
oui, mais
la DDEA, elle ne va pas venir à la rencontre des agriculteurs.
Non, mais ça, cette étude, c'est la DDEA qui a lancé ça. C'est vrai que, par contre, ils n'en sont vraiment qu'au début de leur réflexion. Donc, ils ont fait un petit document très général et qui, globalement, reprend exactement les mêmes idées que nous, on a mentionnées dans notre avant-projet de charte. Mais c'est vraiment qu'au début de la réflexion, là il devait sélectionner un bureau d'études pour que le bureau d'études justement mène une réflexion beaucoup plus approfondie. Et ça ne sera pas avant début de l'année 2010.
D'accord, ok, ça c'est le premier point. Mais après je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, je pense qu'on est encore sur des outils classiques administratifs, quoi. Je veux dire, Conseil général, Chambre d'agriculture, DDEA, avec un cabinet d'études qui va travailler. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu en travaillant sur le PNR, en faisant des commissions ouvertes, toute la richesse du potentiel des gens du territoire, je veux dire. Et moi, je suis un peu déçu que ce soit encore un organisme qui chapeaute encore un système comme ça, quoi. C'est pour ça que je préfère travailler dans le PNR, parce que là, il y a plus d'ouverture, il y a plus d'échanges et c'est beaucoup plus riche, quoi. Et bon, entre parenthèses, une réflexion d'une personne à la Chambre d'agriculture, oh, la société civile, on sait bien que c'est des paroles en l'air qui ne vont pas très loin. Voilà. Et donc, je préfère le dire ouvertement ici pour montrer que, ben, quelque part, aujourd'hui, dans l'état actuel des réflexions, il est nécessaire qu'on soit ouvert sur le maximum sur la pluralité, quoi. Lorsqu'on parle de diversité, quoi, eh ben, la diversité, elle n'est pas seulement dans la nature ou dans les champs, quoi. Elle est aussi au niveau des humains. Et comment on intègre cette diversité humaine pour avancer sur un projet qui soit cohérent pour un territoire, quoi.
Vous avez raison. Alors là, c'est l'axe 5, c'est la gouvernance. C'est une petite révolution. Je répète, la petite révolution dans le modèle où on a essayé de faire ça. Jusqu'à présent, c'est les ordres viennent d'en haut, les technocrates qui vachement intelligents, qui... mais ils n'ont rien à foutre de savoir ce que toi tu as envie de faire. Ils ne vont pas sur le terrain. Sauf pour la France, c'est-à-dire, on a toujours des trucs d'en haut, et ils ne voient pas ce qu'on peut faire ici. Là, c'est le contraire. Le PNR, c'est une émanation du bas. Voilà, on a besoin de ça, de ça. Je crois que la démarche est complètement différente. Si on peut faire, on arrive. Si tu attends que, comme tu dis, la DDE, la DDA, tout ça, tu vas attendre autre chose. Ils t'aideront, mais il faut qu'ils changent un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils te demandent un peu l'avis de ceux qui mènent, ceux qui sont cultivés.